I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute.
Louis.
Avoir de l'ambition professionnelle et finir à 18h sans travailler tous les jours, je pense que c'est possible, mais peut-être pas toute sa vie.
Pour mon métier, non, mais peut-être pour d'autres, oui.
Vous faites quoi ?
Je suis médecin.
Ah oui.
Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a une telle pénurie de médecins que c'est compliqué de finir plus tôt, quoi.
Oui. Pourquoi ? Parce que je viens du Nord, ça fait 27 ans que je suis en France, mais en Allemagne, les gens, même les cadres, les directeurs, etc., souvent en tout cas, bon, ils commencent plus tôt, mais ils quittent le bureau à 17h parce que la famille, le hobby, le sport, le temps pour soi, c'est très important.
C'est sûr que si on veut être ambitieux et qu'on veut se démarquer ou alors qu'on veut réussir à atteindre des charges de travail suffisantes, oui, il va falloir bosser un peu plus, quoi. J'ai un peu de mal à croire qu'en terminant à 18h tous les jours, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés si on est vraiment ambitieux.
Cet été, j'ai regardé une série américaine des années 2000, Ugly Betty. America Ferrera y incarne Betty, une jeune femme qui devient l'assistante du rédacteur en chef d'un magazine de mode très branché. Évidemment, c'est une fiction, mais c'est aussi un modèle. Betty répond à son téléphone à toute heure du jour et de la nuit, elle ne prend quasiment pas de vacances, elle travaille le week-end si son chef lui demande, elle accepte tout, ou presque. Ce n'est pas uniquement parce qu'elle a à cœur de bien faire. Betty est ambitieuse. Elle a un projet professionnel en tête et elle veut se donner les moyens d'y arriver. Son rêve, c'est de diriger un jour son propre magazine. Alors, elle se plie en 45 000 pour satisfaire les besoins de son chef, et petit à petit, espérer se faire remarquer et monter les échelons. Peut-être que vous aussi, vous avez, sous une forme ou une autre, de l'ambition professionnelle. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez voir réalisé, ou encore une augmentation, une promotion que vous voulez décrocher. Dans tous les cas, vous avez une vision claire de ce que vous voulez obtenir et accomplir dans votre travail. La question qu'on se pose dans cet épisode, c'est est-ce qu'il est possible d'être ambitieux, d'accomplir des choses dont on est fier, d'évoluer dans sa carrière, tout en fermant son ordi à 18h sans jamais travailler en soirée ou le week-end ? Je suis Bénédicte Gilles, bienvenue dans Travail en cours. En France, l'idée selon laquelle le succès professionnel est associé à une grande quantité de travail est très ancrée dans les mentalités.
Je m'appelle Pierre Larouturoux, je suis né à Périgueux en 1964 et je suis un de ceux qui a lancé il y a 30 ans, ça ne rajeunit pas, le débat sur la semaine de 4 jours. En 1993, j'ai fait un article pour expliquer comment on pouvait passer à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire.
Pierre Larouturoux est député européen. Avant de s'engager en politique et d'être un fervent défenseur de la semaine de 32 heures en 4 jours, il a d'abord travaillé dans un cabinet de conseil. C'était il y a 30 ans, il était au début de sa carrière.
J'avais un boulot très intéressant. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré dans un grand cabinet de conseil en stratégie, Accenture. J'étais le gars le mieux noté au niveau européen. J'avais un patron qui m'aimait bien, je faisais du bon boulot. Et en même temps, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, pour ma vie perso, pour avoir du temps pour vivre, pour être heureux, pour aller à la piscine, pour voir les amis. Et pour un engagement associatif, je militais avec ATD Quart Monde. ATD Quart Monde, c'est une association qui lutte contre la précarité et l'exclusion. Donc tous les samedis, j'allais faire du colportage de livres avec d'autres dans des quartiers très difficiles.
Pierre Larouturoux réalise assez rapidement que son rapport au temps de travail est très différent de celui de ses collègues.
Alors, ce qui me surprenait, c'est qu'entre deux missions, on était staffés, on était envoyés chez tel ou tel client. Il nous arrivait parfois d'avoir une semaine, deux semaines ou trois semaines de vide entre deux clients. Et les gens restaient au bureau, mais ils avaient le droit de rester chez eux. Et j'en voyais qu'ils paniquaient en disant « mais on n'est pas staffé, on n'est pas chez un client ». Voilà. Et je leur disais « mais bon sang, profite de ce temps libre. Après ça, quand tu vas être chez un client, tu vas bosser 60 heures par semaine ». Donc j'ai trouvé le rapport un peu bizarre au travail.
Petit à petit, Pierre Larouturoux se dit qu'il pourrait passer en 4/5e pour limiter son temps de travail.
J'avais un boulot très intéressant, mais j'avais plein d'autres centres d'intérêt, l'apiculture, la menuiserie, faire des footings avec mon frère ou avec des amis, avoir des copines et des copains, voilà. Donc j'avais trouvé que mon boulot était vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'avoir eu dès le début un boulot très intéressant et bien payé, où on me faisait confiance, où les clients étaient contents. Donc il y a plein de gens qui souffrent au travail, il y a plein de gens pour qui le travail c'est pas génial, c'est juste un gagne-pain. Moi, j'avais la chance d'avoir un boulot intéressant, bien payé, où j'avais des compliments régulièrement. Mais malgré ça, j'avais pas envie de tout sacrifier ou d'avoir que ça dans ma vie. En plus, c'est un métier, le consultant, où c'est pas du tout compliqué d'organiser un temps partiel. Parce que souvent, on est déjà sur deux clients. On a 3 jours chez un client et 2 jours chez un autre. Donc, il n'y a aucun problème d'organisation. Voilà. Donc, cette réflexion, cette volonté d'un équilibre, d'être heureux, d'avoir du temps pour soi, ça m'est venu assez vite dès le début de ma vie active. Parce que pendant ma vie d'étudiant, on faisait plein de choses. Quand on était à l'agro ou à Sciences Po, on faisait nos études, on suivait nos cours de maths, de physique, de biologie ou de sciences économiques. Mais on avait plein d'activités à côté et j'avais pas envie d'avoir une vie qui se restreignait juste au travail en devenant un jeune actif.
Mais son patron refuse systématiquement.
J'aurais très bien pu passer à 4 jours à partir du moment où mon patron me faisait confiance. Je demandais à passer à 4 jours. Il m'a toujours refusé. Et il y a un moment, je lui dis, écoute, tu abuses un peu. Valérie m'a dit que tu avais accepté qu'elle passe à 4/5e et moi, tu me refuses. Et j'avais été un peu choqué. Il me dit, écoute, Pierre, parlons franchement. Toi, tu es très, très bien noté et j'espère que dans quelques années, tu seras un des patrons du cabinet en France et au niveau mondial. Valérie, dans 1 ou 2 ans, elle a vocation à dégager, donc elle peut passer à 4/5e.
C'est comme s'il était impossible de travailler moins et de monter en grade, comme si monter en hiérarchie, c'était forcément fournir un volume horaire croissant.
C'était limite caricatural que ceux sur qui on compte beaucoup, ils doivent travailler plein pot et que celles qui sont bien, mais un peu moins bien et peut-être qui vont dégager, on leur permet de passer à temps partiel.
C'est peut-être pour ça que ses collègues ne lèvent pas franchement le pied pour profiter des périodes plus creuses. Parce qu'ils savent que, dans l'imaginaire collectif, faire du bon travail, c'est travailler longtemps. Dans les faits, on peut travailler moins et mieux. Pierre Larouturoux en est convaincu. Et c'est pourquoi, malgré la carrière prestigieuse qui lui est promise, il démissionne de son cabinet de conseil et se met à militer dans différents courants politiques pour la semaine de 4 jours en 32 heures. En 2023, une vaste étude britannique, menée entre autres par les universités d'Oxford et Cambridge, lui donne raison. Les entreprises qui adoptent la semaine de 4 jours gagnent en productivité. Une autre personne qui milite pour la semaine de 4 jours et la réduction du temps de travail, c'est la députée écologiste Sandrine Rousseau. Elle en parlait par exemple sur le plateau de LCI en janvier 2023.
On diminue le temps de travail et on retrouve du temps pour soi, du temps pour la vie, du temps d'émancipation. Le temps libre n'est pas qu'un temps de repos après un travail difficile. C'est aussi un temps d'émancipation et un temps libre. Et en fait, c'est une philosophie de vie. Et non, nous n'avons pas besoin d'augmenter le temps de travail aujourd'hui.
Alors c'est quoi la bonne proportion pour vous dans une vie ? C'est quoi la bonne proportion acceptable ?
Je pense que nous devrions passer à 32 heures par semaine, une semaine de 4 jours.
Mais dans la pratique, je me demande... Comment Sandrine Rousseau et son équipe font au quotidien pour combiner ses convictions avec l'agenda politico-médiatique particulièrement intense de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'ils y arrivent, eux, à finir à 18h ?
Moi, c'est Théo Garcia, je suis collaborateur d'élus auprès de Sandrine Rousseau, donc députée écologiste de NUPES de Paris, et j'ai 31 ans.
Théo Garcia est assistant parlementaire. C'est un travail un peu couteau suisse, qui consiste à gérer les rendez-vous, l'écriture de discours, la tenue des permanences en circonscription, la rédaction de propositions d'amendements ou encore les relations avec la presse.
À l'Assemblée, enfin, il y a un travail de monstre autour des députés qui est vraiment énorme, et il n'y a pas de période d'adaptation. Quoi. C'est, on arrive, des lois, il y en a immédiatement, il faut avoir connaissance de la loi, donc avoir lu les rapports, consulter les associations pour pouvoir y répondre. On reçoit 200-300 mails par jour, donc il faut voir comment on priorise, à quoi on répond, etc. On a tel adjoint qui va nous inviter à je sais pas, l'inauguration de tel bâtiment. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à organiser quand on est collaborateur de député, même dans l'anticipable.
Les journées des assistants parlementaires peuvent facilement terminer à minuit, 1h du matin, pendant les débats à l'Assemblée. Et toutes ces heures supplémentaires ne sont quasiment pas déclarées, comme le dévoilait le journal Capital en 2019. En juillet 2021, une enquête de Mediapart révélait aussi que la sénatrice Esther Benbassa, exclue depuis du groupe Europe Écologie Les Verts, avait fait pression sur l'une de ses assistantes parlementaires pour qu'elle repousse une opération chirurgicale urgente. Pour Théo Garcia, il est essentiel de saisir les moments de repos dès qu'ils se présentent, plutôt que de maintenir un rythme intense, même lorsque l'actualité ne le justifie pas.
Par exemple, si je sais que Chandrine est chef de file sur un texte, donc ça veut dire qu'en examen, c'est l'examen, il commence à 8h30, ça se finit à 1h du mat, maintenant ça a été réduit à minuit, mais c'est le temps où Chandrine est à l'Assemblée. Et bon, déjà, on essaie de se répartir pour pas être seul et pouvoir partir si on a besoin de partir. Mais je sais que là, ça va être un temps où je vais pas prévoir de trucs perso, et ça veut dire que la semaine d'après, je serai plus cool. Mais si je vois que je sers à rien, je m'autorise à rentrer, à pas rester jusqu'à minuit. Donc il y a des semaines que je vois comme ça très remplies. Et là, par exemple, sur le mois de juillet, on a moins de textes et moins de trucs importants. Donc là, je m'étais dit, à partir du 14 juillet, on freine grandement. Donc par exemple, dans l'emploi du temps de Sandrine, j'ai prévu une journée libre, qui est une journée où nous, on est aussi beaucoup plus cool, quoi. Et j'ai même proposé à mes collaboratrices qu'on parte plutôt sur 4 jours, et s'il y a besoin de faire 2-3 trucs à la maison, le 5e jour, de le faire, mais de baisser un peu le rythme quand on peut. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi. La clé, c'est de quand on peut baisser le rythme.
Mais si baisser le rythme, c'est s'autoriser à faire un peu moins de choses le vendredi et à ne pas rester au travail jusqu'à minuit en semaine, on se rend bien compte que cet équilibre est très relatif et que, dans la pratique, travailler moins, c'est un vrai défi. Le travail revient toujours empiéter sur la vie personnelle de Théo Garcia, via les mails, les appels, les messages. Là aussi, il doit poser des limites et accepter de potentiellement rater des opportunités professionnelles ou recevoir le mécontentement des personnes qui veulent le joindre.
Bah, typiquement, aujourd'hui, en fait, on a reçu hier une invitation pour un événement aujourd'hui qui était à 10h, qu'on a reçu à 21h. Et j'ai précisé à ma collègue que c'est normal qu'on n'y soit pas allé parce qu'il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui, à 21h, regarde les mails un dimanche soir, quoi. Tu vois, c'est un peu insister sur un fonctionnement que je trouve sain de le temps de travail, c'est un temps de travail, et le temps de repos, c'est un temps de repos. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que voilà, moi, le week-end, j'ai plein de journalistes qui m'appellent pour programmer des trucs avec Sandrine. Des fois, c'est compliqué, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'on répond pas, mais pour moi, c'est important d'avoir ces moments libres.
Ce qui me frappe dans le témoignage de Théo, c'est la difficulté qu'il rencontre à vraiment appliquer ses convictions. Tout autour de lui le ramène au travail, y compris lui-même, qui a parfois du mal à lâcher.
Ça pourrait être très facile de faire tout le temps, 50 heures par semaine.
Alors, comment faire pour que cette autorégulation ne soit pas qu'un vœu pieux? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour s'y tenir et réellement limiter son temps de travail?
Alors moi, je suis Lorraine, j'ai 26 ans, je suis consultante en influence en agence de publicité et j'habite à Paris.
Lorraine incarne un rapport au travail assez caractéristique de la nouvelle génération qui démarre sa vie professionnelle. D'après une étude de l'IFOP sortie en 2022, 78% des 18-30 ans adhèrent au concept de droit à la paresse défendu par Sandrine Rousseau. Ce qui ne rime pas avec un rejet du travail, mais simplement avec la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Mes ambitions déjà, c'est d'être heureuse, épanouie, préserver ma santé mentale, ça je pense que c'est hyper important, et faire aussi des choses que j'aime, donc ça passe pas forcément par travailler. Et ce qui est important, je pense, dans notre société aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ce stade, c'est quand même gagner de l'argent. Donc le travail est obligatoire à un moment, parce que si je veux partir en vacances, si je veux aller au restaurant, si je veux faire des cadeaux à mes proches, bah, je suis obligée de gagner des sous. Donc c'est vrai que avoir un métier stable aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire pour moi.
Mais pour Lorraine, il est indispensable de se fixer des limites claires, ce qu'elle a fait dès le début de sa carrière.
Moi, je mets des barrières depuis le début. Enfin, pour moi, mon job, c'est pas ma vie. Et je pense que ça, c'est acquis dans ma boîte. Enfin, ils savent très bien que je vais pas faire des charrettes, que je vais pas travailler le week-end et que si jamais, vraiment, je suis obligée, par exemple, je sais pas, de participer à un événement le week-end parce que bah, cet événement, il tombe ce jour-là, faudra me faire un jour de récup, par exemple. Donc oui, je mets des barrières. Moi, je pars à l'heure, j'arrive à l'heure, je prends mes pauses. Donc moi, je fais mon travail dans le temps qui a été donné et pas plus.
Concrètement, Lorraine compte ses heures, même si elle est cadre et elle n'en a pas honte.
Il y a des outils pour tracer notre temps de travail qu'on doit remplir toutes les semaines pour dire combien de temps est-ce qu'on a passé sur chaque client et aussi pour alerter si jamais on a trop dépassé. Donc moi, je remplis sur ces outils et aussi t'as ton agenda en ligne qui est accessible à tout le monde. Ou moi, par exemple, je ne me rends pas disponible sur ma pause déj, je ne me rends pas disponible avant le début de mon travail et après l'heure de fin. Tu sais, tu peux bloquer sur certaines plages horaires. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Et après, par exemple, le téléphone pro, il est éteint à partir du moment où je quitte le bureau et il ne sera pas rallumé.
Peut-être que ça vous semble un peu vertigineux de procéder comme Lorraine. Pourtant, au sein de son entreprise, elle n'a été que très rarement exposée à des remarques négatives.
Il y a des gens qui me disent, par exemple, « Ah bah toi, je sais qu'après 19h, faut pas essayer de t'appeler parce que tu répondras pas. » Oui, bah, je vois pas où est le souci, en fait, et je te souhaite la même chose. Je te souhaite d'avoir une vie perso, mais sinon, ça va pas plus loin que ça. Enfin, voilà.
En fait, l'ambition professionnelle de Lorraine dépasse le cadre de son entreprise. Et c'est peut-être pour ça qu'elle réussit à poser si fermement ses limites. En plus de son poste, elle a une activité parallèle à laquelle elle dédie beaucoup de temps et qui commence à lui apporter une rémunération importante, la création de ses propres contenus en ligne. Depuis plus d'un an, elle s'est fait connaître sur TikTok sous le pseudo de Lolévi. Elle propose un contenu rafraîchissant à ses quelques 150 000 abonnés. En plus de nous apprendre le droit du travail de façon pédagogique, elle bouscule les mythes qui entourent le monde professionnel et prône un changement de culture d'entreprise. Comme avec cette vidéo Point of View, ou POV, où elle interprète un dialogue avec Suzanne, sa collègue un peu trop matrixée.
Allez, c'est l'heure, j'y vais. À demain. Attends, mais il est 18h et tu pars ? En fait, tu fais juste le strict minimum, quoi. T'es en train de faire une démission silencieuse. Mais tu sais, moi, sur mon contrat, c'est écrit que je finis à 18h, hein. J'ai fait mon travail, comme c'est écrit, dans mon contrat. Pas moins. Selon ma vision du monde du travail, si tu ne montres pas que t'es impliqué en restant un peu tous les soirs et en faisant un peu plus que ce qu'on te demande, bah en fait, tu fais juste le minimum syndical. Attends, mais je t'arrête tout de suite, Suzanne. Est-ce que tu sauves des vies ? Non, non, c'est vrai. Est-ce que tu es payé suffisamment pour te priver de ta vie perso sous prétexte que t'as envie de te faire bien voir ? Non ? D'accord, non, c'est... Bon, bah voilà, t'as tes réponses alors. Allez, bonne soirée. Bon, bah, bonne soirée, hein. Je vais y aller aussi, du coup.
Et parfois, ces messages passent. Elle s'en rend compte aux réactions de ses abonnés.
Parfois, il y a des gens qui me disent, voilà, tu m'as ouvert les yeux. En fait, je me suis rendu compte que c'était complètement anormal ce que je vivais dans mon taf. Mon patron se permettait de m'appeler à 5h du mat. Je devais me déplacer sur mes jours de congé. Enfin, des trucs parfois, mais... Enfin, je sais pas, tu te laisses pas ton patron t'appeler à 5h du matin. Même, tu lui donnes pas ton numéro perso. Enfin, il y a des trucs où j'ai l'impression que c'est tellement basique. Et en fait, les gens, ils ont besoin quand même qu'on leur dise, non, ce n'est pas normal. Tu te dis, c'est fou, comment est-ce qu'on peut en arriver à accepter ça?
Changer ce qui est considéré comme normal ou anormal, c'est aussi ce à quoi s'attache Guillaume Declerc.
Enchanté. Et voilà, ici c'est là, et nos bureaux sont là aussi. Mais voilà, bienvenue.
Merci. 7h13, je ne veux plus travailler.
C'est encore les vacances.
C'est la vraie. C'est dur pour le podcast, mais...
Guillaume Declerc prône aussi un changement de culture dans sa propre entreprise, la marque de vêtements éthiques Loom.
Alors, je m'appelle Guillaume Declerc, j'ai 39 ans. Et moi, je crois beaucoup en les vertus de la sobriété, donc que ce soit la sobriété dans le travail, où je pense que c'est important de travailler mieux pour travailler moins, mais aussi la sobriété dans la consommation. Je pense que c'est important de consommer mieux pour consommer moins. Et ici, on est justement dans les sous-sols de la boutique de la marque de vêtements Loom qu'on a ouvert il y a à peu près un an dans le Marais.
Comme Pierre Larouturou, Guillaume a commencé à questionner son rapport au temps de travail dès le début de sa carrière.
Personnellement, bah, au début de ma carrière, j'étais consultant, donc je sauvais vraiment pas des vies. Et pourtant, ma première semaine de travail, j'ai dû finir deux fois à 2h du matin. J'en ai pas mal souffert, j'étais assez malheureux. J'avais jamais envisagé que le travail puisse être aussi intense. Et donc, avec mon associé Julia, quand on a compris que Loom pouvait être le projet d'une vie, c'est là qu'on a mis en place vraiment des méthodes et des principes de travail qui puisse faire que bah, Loom soit compatible avec un vrai équilibre de vie pro et vie perso.
Et ça se traduit très concrètement sur les horaires de travail de toute l'entreprise.
Pour que les salariés fassent des horaires raisonnables, le plus important, c'est que les managers, donc en l'occurrence nous avec Julien, mon associé, c'est qu'on ait on a un devoir d'exemplarité, quoi. On doit montrer l'exemple. Donc nous-mêmes, on part assez tôt du travail. Hein, je disais vers 17h, 17h30, en général, on quitte le travail. Ce qui fait que naturellement, en fait, les salariés vont finir le travail dans ces eaux-là. Je crois n'avoir jamais vu quelqu'un dans les bureaux après 18h. Pour nous, ça, c'est hyper important, c'est une réussite, quoi. Ça veut dire que le travail n'est pas forcément le centre de leur vie, mais qu'ils peuvent développer d'autres activités autour.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment c'est possible, concrètement, de s'arrêter de travailler à 17h quand on est chef d'entreprise ? Guillaume Declercq, c'est aussi le co-auteur du livre « La 25e heure, comment travailler une heure de moins chaque jour ».
La 25e heure, c'est un livre qu'on a écrit avec deux amis qui sont donc les deux co-auteurs, Jérôme et Guillaume. Et comme beaucoup de bonnes idées, c'est né autour d'une bière dans un bar où on s'est dit, bah, en fait, à force de s'échanger des petites méthodes de travail, de voir aussi autour de nous, en fait, plein de gens qui avaient tendance à travailler hyper tardivement, voire faire des burn-out. On s'est dit, mais c'est fou quand même. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à partager? Et on s'est dit, tiens, on va faire un petit livre.
Pour l'écrire, les trois amis ont récolté les conseils de plus de 300 entrepreneurs et entrepreneuses. Pour les auteurs, le travail accompli est un facteur du temps qu'on passe à travailler, de l'intensité de notre temps de concentration et de la rapidité avec laquelle on exécute une tâche. Pour réduire le temps de travail, selon les auteurs, il faut donc 1. Apprendre à s'organiser, à allouer juste le temps qu'il faut à chaque tâche et surtout ne pas y perdre trop de temps. 2. Améliorer sa concentration. Et 3. Accélérer, c'est-à-dire augmenter la rapidité avec laquelle on exécute des tâches. La première étape, c'est donc de s'organiser. Et la première clé, c'est d'apprendre à dire non aux tâches qu'on veut vous confier et qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Cela inclut aussi de dire non à des réunions auxquelles on vous convie. Selon les auteurs, un bon repère, c'est de se dire qu'il faut dire non à 20% des réunions qu'on vous propose.
Une méthode simple pour décliner une réunion, c'est peut-être juste de se demander, ok, est-ce que si j'étais malade, cette réunion aurait lieu quand même? Et si la réponse est positive, c'est qu'a priori, on peut juste demander le compte-rendu et quand on ne sera pas vraiment indispensable.
Au-delà des réunions, si une tâche peut être faite par quelqu'un d'autre que vous, il faut absolument la déléguer. Ce n'est pas toujours simple de déléguer des tâches qui semblent importantes, mais cela changera votre charge de travail du tout au tout. Enfin, pour les tâches que vous devez accomplir vous-même, il s'agit de savoir prioriser les tâches les plus importantes et vous sacraliser du temps pour.
Disons, ce qui m'a surpris, c'est de voir certains conseils qui revenaient vraiment très souvent, alors qu'on s'en doutait pas tant que ça. Il y en a un que les gens nous ont souvent monté, ils nous disaient « mais moi, j'ai une sorte de règle où chaque début de semaine ou chaque fin de semaine, je me liste les trois choses, les trois tâches les plus importantes à faire dans la semaine. » Et une fois que je les ai identifiées, bah, je les bloque dans mon... Enfin, je leur alloue un temps dans mon agenda, je les timebox en quelque sorte, pour pouvoir vraiment les mener à bien. L'idée de timeboxer ces tâches, c'est juste de donner juste un créneau d'une heure ou de deux heures dans son agenda pour faire ces tâches et rien faire d'autre, pour qu'en fait, ça soit en quelque sorte des rendez-vous qu'on fixe avec soi-même pour pas qu'on nous mette des rendez-vous sur d'autres sujets à la place.
Et si l'objectif est trop ambitieux, vous pouvez le découper en sous-tâches atteignables pour éviter de procrastiner. C'est là qu'on passe à la deuxième partie des conseils, comment mieux se concentrer.
En général, j'alloue une journée à une seule tâche sur laquelle je vais être hyper concentré et je vais aller jusqu'au bout. Je mets beaucoup d'intensité. J'essaie de ne pas trop papillonner entre les différentes tâches parce que le fait de papillonner, d'alterner entre différentes tâches, ça fait perdre de la concentration, perdre de l'intensité.
En moyenne, aujourd'hui, un employé de bureau ne travaille que 11 minutes en continu avant d'être interrompu. Or, une tâche qu'on réalise de façon morcelée va forcément nous prendre plus de temps qu'une tâche qu'on réussit à réaliser d'une traite. Et surtout, on va être moins performant intellectuellement. Le professeur de psychologie Glenn Wilson a montré qu'on peut perdre jusqu'à 10 points de QI quand on reçoit une sollicitation externe alors qu'on est en train de résoudre un problème. Selon ce chercheur, les emails altèrent plus la concentration que la prise de cannabis et ont aussi un effet addictif.
Il y a une minute rentable dans sa vie, c'est d'aller sur son téléphone, d'aller dans les paramètres et de supprimer l'ensemble de ses notifications. Et même WhatsApp. Ça n'arrivera jamais que quelqu'un oublie de regarder WhatsApp en disant « Mince, ça fait 8 semaines que je n'ai pas regardé WhatsApp, j'ai 8253 notifications, j'aurais dû répondre, ça n'arrivera pas. »
Autre conseil dans le livre, au lieu de regarder ses mails à la moindre notification en se laissant ainsi déconcentrer, mieux vaut se fixer 2 à 3 moments dans la journée pour les traiter. Par exemple, le matin, le midi et le soir. Vous pouvez aussi utiliser l'extension Inbox When Ready sur Gmail. Elle permet de mettre l'actualisation de votre boîte mail sur pause. Ça veut dire que vous pouvez traiter vos emails et en écrire de nouveaux tout en évitant d'être interrompu par les emails entrants. Et puis, il existe aussi des applications qui empêchent de vous connecter sur les réseaux sociaux pendant la durée de votre choix. Enfin, la troisième partie des conseils consiste à accélérer. Le livre mentionne par exemple des extensions qui permettent de relancer automatiquement des gens à qui vous avez adressé un mail avec des points d'interrogation et qui ne vous ont pas encore répondu, comme ça vous n'avez pas à y penser. Un autre outil pour aller plus vite, c'est aussi de pré-rédiger des emails modèles qui répondent aux sollicitations qu'on vous envoie le plus régulièrement. Ensuite, pour se pousser à ne pas traîner dans ses tâches et limiter concrètement ses horaires, Guillaume Declercq a une autre règle d'or. Toujours se prévoir quelque chose en fin de journée pour être sûr de ne pas s'éterniser au bureau. Se créer soi-même des deadlines qui sont plaisantes et donc réellement motivantes.
Concrètement, en général, j'arrive au travail à 8h30 à peu près après avoir déposé ma fille. Et ce que j'essaie de faire à la fin de la journée, c'est d'avoir une sorte de contrainte d'agenda, alors qui est donnée aussi en général par ma fille, puisque je vais la chercher à l'école vers 17h-17h30. Mais si je ne vais pas la chercher, je vais essayer d'avoir une activité sportive, par exemple. Parce qu'il y a ce truc de loi de Parkinson qui est que le travail s'occupe toujours de façon à occuper tout le temps qui lui est affecté. Donc j'essaie déjà d'avoir 2 jalons, quoi, un jalon de début et un jalon de fin pour travailler différemment.
Pour travailler moins, tout en gardant ses objectifs professionnels, il n'y a pas de recette magique, mais plein de choses à mettre en place. Ça peut être de grands projets, comme pousser la semaine de 4 jours dans votre entreprise, ou de petites choses, comme compter vos heures, apprendre vos droits, refuser 20% des réunions qu'on vous propose, et vous rendre injoignable le week-end. Atteindre cet équilibre, celui qui vous convient le mieux, qui vous permet de combiner vos ambitions professionnelles avec votre vie personnelle, ça demande une certaine rigueur au quotidien, parce que l'on a tôt fait de se laisser emporter par la tâche. Finalement, vouloir travailler moins, ce n'est pas faire preuve de paresse. C'est un travail au long cours, pour changer doucement sa propre organisation de travail et, pourquoi pas, l'organisation du travail telle qu'elle est pensée dans l'entreprise et dans nos vies. Et dans le prochain épisode, on continuera à se demander comment améliorer sa concentration et sa productivité en se plongeant dans le sujet du travail profond, ou comment atteindre cet état de concentration ultime qu'on appelle état de flow. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Bénédicte Gilles, j'ai écrit cet épisode et tourné les interviews de Lorraine et Guillaume Declercq. Adélaïde Tenaglia a réalisé les interviews de Pierre Larouturou et Théo Garcia. Louise Emerlet était en charge de la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. La musique est de Jean Thévenin et le montage et la réalisation ont été faits par Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partis de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.